J'essaye vraiment de me rallonger.
Ah, j'ai vu le numéro 1, c'est bon. Bonjour à tous. Aujourd'hui, comme vous l'avez remarqué, c'est le dimanche d'évocation de notre fédération. C'est ce que Mathieu nous a rappelé tout à l'heure. Ce dimanche, nous célébrons l'appel que Dieu lance à chacun de nous pour le servir. Et voilà, quand il m'a été proposé de partager un texte ce matin avec vous, le texte qui m'est venu à l'esprit, c'était Ecclésias chapitre 3. Mais ce chapitre, à première vue, n'a pas l'air, disons, très fun pour la journée des vocations. Mais croyez-moi, en regardant Ecclésias 3 de plus près, il y a des choses intéressantes que sur notre place dans le monde et sur le boulot qui nous attend. Imaginez un immense puzzle composé de milliers de pièces aux formes et couleurs infiniment variées. Imaginez que chaque pièce représente un fragment de votre vie, comme une rencontre marquante, un événement vécu, une circonstance particulière, un moment précieux ou un lieu qui vous a marqué. Assembler ce puzzle, vous me direz, demande du temps. Cela demande de la patience, cela demande de l'observation attentive. Car il faut scruter les pièces, les retourner dans tous les sens, l'essayer à différents endroits, si possible, et parfois, en posant la pièce, certaines s'emboîtent de façon parfaite pour nous révéler comme une petite image de finale. D'autres fois, il y a une pièce qui manque, une pièce manquante laissant un sentiment de frustration. Imaginez maintenant que votre vie, c'est comme un puzzle géant. Mais à la différence d'un puzzle classique, nous n'avons pas l'image finale sous nos yeux. Seul Dieu détient la vision complète de notre existence et de celle du monde. Heureusement, on n'est pas complètement perdu. Nous avons entre nos mains les pièces de ce puzzle. Que sont ces moments? Que sont ces rencontres? Que sont ces choix qui s'imposent, qui se présentent à nous parfois dans notre vie? Et Dieu, dans sa sagesse infinie, il nous a donné la notice qui est sa parole, qui est la Bible. Mathieu nous l'a rappelé tout à l'heure pour nous guider. Mais le hic, le petit hic dans tout ça, c'est qu'on a souvent tendance, je parle de moi, à vouloir tout contrôler. On veut construire notre vie à notre façon, selon nos rêves, selon nos aspirations. On oublie que beaucoup de choses nous échappent et que des événements imprévus peuvent venir bouleverser ce qu'on attend, ce qu'on rêve vivre comme vie. Alors, face à cette incertitude, trois questions surgissent comme un coup de klaxon pour nous réveiller, nous faire réfléchir. Peut-on lâcher prise et faire confiance à fond à Dieu? Sommes-nous capables de voir que notre temps est précieux et que ce temps précieux est un cadeau de Dieu? Avons-nous la foi que Dieu veut notre bien, même quand tout semble s'effondrer? Je vous invite à ouvrir vos Bibles avec moi et nous allons lire ensemble le chapitre 3 d'Ecclésias. Et ce texte nous apporte quelques éclairages précieux sur ces questions cruciales. Mais avant d'ouvrir la parole et de plonger dans la lecture de ce texte, je nous invite encore à prier pour demander à Dieu de nous ouvrir nos yeux et nos cœurs à sa parole. Dieu notre Père, nous te disons merci pour ce temps que tu nous donnes autour de ta parole. Et comme le psalmiste l'a dit, et comme nous le chantons aussi des fois, enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Parle à mon cœur, parle à notre cœur encore ce matin, par ta parole. Fais en sorte qu'elle ait un effet efficace et concret sur notre vie. Nous te prions dans le nom précieux de Jésus-Christ. Amen. L'auteur du livre d'Ecclésiaste que nous allons lire, certains pensent que c'est Salomon. Et ce chapitre 3 nous parle du temps, et qui est une réalité fondamentale de l'univers, et nous dit que le temps est créé par Dieu. L'auteur nous dit, il nous rappelle qu'il y a un temps pour tout, et ce temps, que ce soit bon ou mauvais, est parfait. Cela me ramène tout droit au premier point qui m'a interpellé dans la lecture de ce chapitre 3 d'Ecclésiaste et que j'ai essayé de reformuler sous cette forme. Dieu nous donne du temps avec du haut et des bas. Acceptons-le. C'est ce que je nous invite à découvrir en lisant le verset 1 à 8. Vous pouvez le suivre dans votre version, mais je l'ai également ici. Ce texte dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer, un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir. Un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter, un temps pour danser. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres. Un temps pour embrasser, un temps pour s'éloigner des... C'est embrassement, mais moi je dis embrassade, mais je ne sais pas si c'est français. Mais en tout cas, un temps pour s'éloigner des embrassements. Un temps pour chercher, un temps pour... perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter. Il y a un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire, un temps pour parler, un temps pour aimer, un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Une chose que vous avez peut-être remarqué comme moi, c'est que dès le début de ce premier verset du chapitre 3, l'auteur nous rappelle qu'il y a un temps pour le début, qui est un temps pour naître, et il y a un temps pour la fin, un temps pour mourir. Et je dirais qu'entre les deux, il y a le temps pour tout le reste. L'auteur nous liste ici 13, dans ses 8 premiers versets, il nous liste 13 temps qui sont plantés, arrachés, tués, guérir, abattre, bâtir, pleurer, rire, se lamenter, danser, lancer des pierres, ramasser des pierres, amasser, embrasser et s'éloigner des embrassements, chercher, perdre, garder, jeter, déchirer, coudre, se taire, parler, aimer, haïr, faire la guerre et faire la paix. Chaque père souligne ici quoi ? Il souligne la dualité et le cycle constant de la vie. La richesse dans ces oppositions, c'est qu'elle nous montre que la vie est complexe et multiforme. La vie ne se résume pas qu'à un combat entre le bien et le mal. La vie est faite de pleines de nuances. Ces paires d'oppositions nous enseignent que Dieu nous donne un temps avec des hauts et des bas. Acceptons-le donc. Le temps est un don de Dieu. Nous sommes appelés à l'accepter comme il nous est donné, même lorsque il nous apporte des expériences difficiles. Ce n'est pas une invitation au fatalisme, c'est plutôt une invitation au contentement. Savez-vous la différence qu'il y a entre le fatalisme et le contentement ? Le fataliste dit « tout est écrit », ce qui est inexact. Car la Bible nous laisse, car dans la Bible, Dieu nous laisse le choix, la liberté de faire ce que nous voulons. C'est écrit dans Deutéronome 30, 19 à 20, mais son désir, le désir profond de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Le fataliste subit sans broncher. Celui qui vit le contentement, c'est quelqu'un qui est content. Il se contente de ce qu'il a, même quand la vie est dure. Celui qui vit le contentement accepte la volonté de Dieu avec gratitude et non avec résignation. La Bible nous veut actifs et reconnaissants, mais pas résignés et passifs. La question que cela nous pose, c'est comment pouvons-nous appliquer concrètement cette vérité à notre vie quotidienne? Ce n'est pas facile. Je vous livre juste deux réponses qui me sont venues à l'esprit. Si nous traversons une période difficile, ou si nous sommes face à un choix difficile, ou que sais-je, acceptons ce temps comme un don de Dieu. Dieu est le maître du temps. Sa volonté est de nous faire du bien. Et selon sa volonté, il nous donnera un moment bien meilleur. Plaçons simplement notre confiance en lui, et car il est le maître du temps. Il a promis d'être avec ses enfants pour traverser les moments difficiles. Et il tient ses promesses. Si nous ne le voyons pas dans nos moments difficiles, comme nous l'enseignait Benjamin la semaine dernière, nous pouvons lui demander de nous ôter le voile, de nous ouvrir les yeux, et pour qu'on le voie, pour qu'on le ressente. Et croyez-moi, il le fera. Et si nous sommes dans une période où tout va bien, vivons ce temps aussi comme un don de Dieu. Soyons reconnaissants à Dieu pour les bonnes choses de notre vie. En acceptant le temps, bon ou mauvais, comme un don de Dieu, nous commençons par là à lâcher prise. Ce début du chapitre 3 d'Ecclésiaste nous montre que la vie est un cycle avec des hauts et des bas. Il nous rappelle que rien n'est figé, que ce soit des moments douloureux ou des moments de bonheur, ils ne sont pas figés. C'est vrai, l'aspect cyclique des choses telles que c'est présenté a de quoi décourager. C'est peut-être pour cette raison que l'auteur d'Ecclésiaste se demande au verset 9 « Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine ?» La réponse à cette question se trouve en partie dans la suite du verset que nous allons lire, du verset 9 au verset 13, et que j'ai essayé de formuler sous cette forme. Dieu nous donne notre travail et il embellit. Jouissons-en. Le travail ici désigne l'activité humaine. Cela inclut le travail rémunéré, cela inclut le bénévolat, cela inclut les tâches que nous faisons chez nous, cela inclut nos études, les études, cela inclut les responsabilités que l'on a, et même, je dirais, le loisir, font partie de l'activité humaine. Dieu nous donne notre travail, Dieu nous donne notre activité humaine et il embellit jouissons-en. Je vous invite à trouver cette idée en lisant ensemble la suite de ces textes qui dit ceci. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il a fait toutes choses bonnes en son temps, mais il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il y a du bonheur pour eux que se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est là un don de Dieu. À la question du verset 9, que gagne l'homme à sa labeur? L'auteur Ecclésias répond en disant au verset 10 que le travail est une charge donnée par Dieu aux hommes. Mais il ajoute au verset 11 que Dieu a aussi fait en sorte que tout soit beau en son temps, en mettant dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité, même si l'homme n'est pas capable, ne peut pas comprendre l'œuvre de Dieu du début jusqu'à la fin. Ce verset 11 nous est bien familier. C'est un verset que nous utilisons souvent pour encourager des personnes qui sont en difficulté, en disant « Dieu fait toutes choses bonnes en son temps ». Ou pour partager notre foi en disant que Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité. C'est vrai. Ces versets sont bien adaptés pour ces circonstances. Une autre idée que me renvoie ce verset 11 et que j'aime bien est celle que Dieu a tout créé à la perfection. Et cette perfection est au-dessus de notre compréhension. C'est en acceptant que nous sommes des créatures limitées, incapables de connaître tous les choix de Dieu, que nous trouvons la paix profonde, ce que la Bible appelle la sagesse. Si nous retournons à notre image du puzzle géant, chaque pièce, chaque moment de nos vies a une place parfaite dans le plan parfait de Dieu. Tout s'imbrique et prend son sens parfait dans le plan divin. Même notre galère, même nos épreuves ont leur place dans le plan parfait de Dieu. Cela nous invite à ne pas nous arrêter sur la surface des choses, mais à plonger notre regard plus loin et voir que derrière les difficultés, derrière les épreuves se cache une beauté insoupçonnée, une beauté qui découle de la sagesse infinie de Dieu. Comme le dit le psaume 104, verset 24, « Tu as fait beaucoup de choses, Seigneur, tu les as toutes faites avec sagesse. La terre est remplie de ce que tu as créé. » Même les moments les plus durs de notre vie ont, je dirais, au regard de ce que nous dit la Bible, ces moments durs ont une utilité. Ils sont là pour nous faire grandir, nous apprendre la patience, nous apprendre la persévérance, nous apprendre la foi, même si c'est difficile. Comme le dit Romains 8, 28, ce texte nous le confirme en disant « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés à son dessein. » Alors, la prochaine fois que vous traverserez une épreuve, ne vous découragez pas. Dites plutôt, même si c'est difficile, si vous pouvez, dites c'est beau, car Dieu est à l'œuvre. Accueillez l'épreuve avec confiance et découvrez en son temps la beauté cachée que Dieu a placée dans cette épreuve. Peut-être que ce ne serait pas immédiat, Peut-être avec le temps, vous le verrez. Mais Dieu cherche à nous dire quelque chose dans ces moments-là. Dieu embellit notre travail. Dieu embellit notre activité humaine. Comment? C'est Dieu qui nous donne le travail. C'est écrit dans les versets, on le lit en filigrane dans le verset 9 et 13. C'est Dieu qui peut transformer les moments difficiles en moments meilleurs. Nous l'avons lu en filigrane dans le verset 11. Et c'est Dieu qui nous veut, il veut qu'on soit heureux dans notre travail, dans nos activités. On le voit aussi en filigrane dans le verset 13. Franchement, on cherche tous quelque chose de plus grand dans cette vie. Et on se rend compte que le temps, c'est précieux. On se rend compte qu'on ne peut pas le contrôler, le temps. Et ça, c'est quelque chose qui nous frustre quelque part. Heureusement, Dieu nous comprend. Il nous aime. Il guide notre temps. Et c'est ce que nous renvoie la suite de ce texte, le verset 14 à 15. Et que j'ai essayé de reformuler avec mes mots en disant que Dieu œuvre au-delà de notre temps et au-dessus de notre travail, au-dessus de notre activité. Reconnaissons sa grandeur. Je vous invite à découvrir ces pensées-là en lisant avec moi la suite de ce texte qui dit ceci: « J'ai reconnu que tout ce que Dieu fait durera toujours, qu'il n'y a rien à y ajouter et rien à retrancher, et que Dieu agit ainsi afin qu'on le craigne. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà été, et Dieu ramène ce qui est passé. » Ecclésiaste nous dit là, en gros, au verset 14, que ce que Dieu fait est toujours parfait, mais rien n'a ajouté, rien n'a retranché. Et ses plans sont éternels. Il nous faut donc l'accepter, ses plans, et lui faire confiance. Et le verset 15 enfonce le clou en disant que la pensée, le passé et l'avenir sont déjà écrits par Dieu. Il nous faut donc le respecter et plier genoux devant lui. Car Dieu est l'architecte de notre vie. Il peut nous guider, faisons-lui confiance. Le temps est un don de Dieu. Notre labeur est un don de Dieu. Et Dieu nous promet que tout ce que nous faisons aura un sens. Mais parfois, il peut être difficile de voir le sens parfait de son œuvre quand on voit tant de mal, tant d'injustices dans notre monde. Et l'auteur d'Ecclésiaste perçoit aussi cette même dissonance. Mais il a choisi quoi? Il a choisi de ne pas abandonner sa foi en Dieu. Pourquoi? Parce qu'il savait que le temps de Dieu est différent de notre temps. Ce qui m'amène au dernier point du passage de ce matin, à savoir que Dieu redresse tous nos torts. Il le redresse en son temps. Reconnaissons nos torts. C'est cette pensée que je vous invite aussi à revoir en lisant avec moi la suite de ce chapitre 3, qui dit ceci: « J'ai encore vu sous le soleil qu'au lieu établi pour juger, il y a de la méchanceté, qu'au lieu établi pour la justice, il y a de la méchanceté. J'ai dit à mon cœur, Dieu jugera le juste et le méchant, car il y a un temps pour toute chose et pour toute œuvre. J'ai dit en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Tout va dans un même lieu, tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. Qui sait si le souffle des fils de l'homme monte en haut et si le souffle de la bête descend en bas dans la terre? Et j'ai vu qu'il n'y a rien de mieux pour l'homme que de se réjouir de ses œuvres. C'est là sa part, car qui le fera jouir de ce qui sera après lui. L'auteur d'Ecclésiaste ici constate ici la méchanceté extrême, même dans les lieux où la justice est censée régner. Cela le conduit à se demander si Dieu est juste. Il se dit alors que Dieu jugera chacun à son heure, le juste comme le méchant. Dieu redressera tous nos torts en son temps. Cela signifie que nous devons avoir confiance en la justice de Dieu. En voyant comme nous la méchanceté de notre monde déchu, l'auteur d'Ecclésiaste confesse sa croyance en disant qu'un jour, Dieu jugera tout le monde dans l'équité et la justice. La logique de son propos ici est la suivante. S'il y a un temps pour tout, pour que chaque matière et chaque labeur soit à son temps, alors il y a certainement un temps pour la justice et la droiture de Dieu, pour que la justice et la droiture de Dieu priment. Si aucune de nos œuvres ne dure éternellement, sa logique, c'est que l'injustice ne peut pas non plus durer éternellement. Dieu a prévu un moment pour chaque chose. Il a prévu aussi un temps pour le jugement. Un jour, le règne des méchants prendra fin. Les méchants devront rendre des comptes. Croyez-le, c'est une bonne chose. Louons Dieu pour cela. Parfois, en voyant des choses atroces qui nous dépassent dans ce monde, nous nous demandons, pourquoi pas maintenant le bon moment pour la justice totale? Le verset 18 sous-entend une réponse intéressante que je vous invite encore à le relire, ce verset 18. Il dit ceci, « Je dis en mon cœur, au sujet des fils de l'homme, que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. » Ce verset remet tout simplement l'homme à sa place, à savoir celle d'une créature et non du créateur. À la question, pourquoi pas maintenant le bon moment pour la justice totale quand on voit toutes ces atrocités? Je vous livre une citation que j'aime bien, celle d'un British, Frank Derek, un spécialiste des commentaires de l'Ancien Testament. Il a dit ça en anglais que j'ai essayé de traduire en français avec mon niveau de connaissance d'anglais. Il dit ceci, en gros c'est à peu près juste. Notre premier besoin n'est pas d'enseigner à Dieu ses affaires, mais d'apprendre la vérité sur nous-mêmes. C'est une leçon que nous sommes très lents à accepter. Fin de citation. Oui, nous sommes des créatures et non le Créateur. Ecclésiaste 3, verset 20, nous le rappelle avec quasiment les mêmes mots que dans Genèse. Il dit « Tout a été fait de la poussière et tout retourne à la poussière. » Genèse 3, verset 19, nous le dit « Car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Nous sommes donc appelés à rester à notre place de créature. Le temps du jugement final, le bon moment où cela doit se faire est du ressort du Dieu créateur. Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, redresse tous nos torts en son temps. Cela inclut le pardon de nos péchés et la réconciliation avec Dieu. Tu te sens peut-être perdu. Tu cherches des réponses à tes interrogations profondes. Dieu t'attend. Il t'attend les bras ouverts. Pourquoi pas le faire aujourd'hui? Pourquoi pas faire un pas vers lui? C'est peut-être le temps de le faire aujourd'hui. Dieu n'est pas un juge sévère. Nous l'avons dit tout à l'heure. Et je l'ai entendu dans une prière ce matin. Dieu n'est pas un juge sévère, mais il est un père aimant qui veut du bien à ses enfants, qui veut de ton bonheur. Laisse-le t'embrasser et te guérir. Peut-être tu te sens aujourd'hui éloigné de Dieu. Ne crains pas de revenir à lui. Il t'aime toujours et te pardonne sans condition. C'est peut-être le moment de revenir à lui. Un retour à Dieu n'est jamais trop tard. Il est toujours prêt à t'accueillir, à te donner un nouveau départ. Pour conclure, encore quelques mots. Le chapitre 3 d'Ecclésias, que nous venons de lire, nous montre que la vie est un cycle de moments heureux et de moments difficiles, mais que Dieu est présent à chaque instant. Soyons reconnaissants pour tout ce qu'il nous donne, pour le mauvais que nous percevons, aussi bien que pour le bon. Même nos activités humaines, parfois pénibles, peuvent être une source de satisfaction. Profitons de chaque moment. Dieu est plus grand que tout ce que nous pouvons imaginer. Respectons-le et faisons-lui confiance. Entre le temps pour naître et le temps pour mourir, il y a le temps pour tout le reste. Et pour ce temps, le temps pour tout le reste, Dieu nous a confié une mission, l'aimer et le servir de tout notre être. C'est écrit dans Deutéronome 6, verset 5. Aujourd'hui, comme nous l'avons dit, c'est la journée des vocations de notre fédération. C'est peut-être le moment pour réfléchir à cette mission et demander à Dieu de nous guider. En tout cas, quelle que soit la déclinaison spécifique que tu trouveras à cette mission de l'aimer et de le servir, accomplis-la avec enthousiasme, avec joie, en la foi en Jésus-Christ. Amen. Je vous invite à prier. Seigneur Dieu, nous te remercions pour ta parole et pour l'éclairage qu'elle nous apporte sur nos vies. Nous te remercions pour la vie que tu nous donnes et que tu nous as donnée. Nous te remercions pour ce qu'elle est, avec ses moments de joie et de peine. Nous te remercions pour qui tu es. Et nous reconnaissons que tu es le maître de notre temps et de notre destin. Donne-nous, Père, la force et la sagesse nécessaires pour accomplir ce que tu nous demandes de faire, t'aimer et te servir pour la gloire de ton nom. Nous te prions dans le nom de Jésus-Christ. Amen. J'invite